Au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux, sur l'application France Inter, il y a beaucoup de moyens d'intervenir pour vous, chers auditeurs, auprès de ce matin de Michael Jean, secrétaire général de l'Organisation de la Francophonie. Il y a beaucoup de messages sympathiques à votre égard, Michael Jean, pour votre témoignage et pour votre parcours. La francophonie, c'est pas seulement une langue en commun, c'est un esprit à vos yeux.
Merci de dire ça, parce que c'est aussi un esprit, ce sont un ensemble aussi de valeurs partagées. La francophonie est née d'un idéal extrêmement moderne, hein, il faut le savoir. C'est-à-dire que quand s'écroule le système colonial et naissent ces nouveaux pays indépendants, vous avez des hommes du Sud, donc chefs d'État de ces nouveaux pays, comme Bourguiba en Tunisie, Dury au Niger, Senghor au Sénégal, Sihanouk au Cambodge, qui se disent « Alors, et si on se dessinait un espace qui nous permettrait, avec cette langue que nous avons en partage, ce trait d'union formidable, de repenser nos rapports les uns aux autres, notre regard les uns sur les autres, nos relations. Et quand on pense à l'état du monde aujourd'hui, c'est assez formidable. Et déjà, ils se projettent aussi sur un marché commun. Et ils vont remonter jusqu'en France, avec l'aide aussi d'un Québécois, Jean-Marc Léger, pour faire cette proposition en disant, donnons-nous un espace où nous allons vraiment construire quelque chose ensemble et autour d'un humanisme intégral. Donc, c'est assez formidable.
C'est le contraire d'une démarche coloniale, donc ce que
totalement, vous voulez dire. En fait. Et c'est une démarche qui est une volonté de faire ensemble, d'avancer ensemble sur ces valeurs de solidarité, de fraternité.
Ça induit une question d'ailleurs d'un auditeur, William, depuis Orsay, qui vous demande, la France doit-elle encore être considérée comme le cœur de cette francophonie par rapport à certains pays d'Afrique ou au Québec? Est-ce toujours légitime de laisser le siège de la francophonie en France,
à Paris?
En fait,
il faut savoir, bon, je peux en témoigner, d'ici, je circule partout. Oui. C'est-à-dire que le siège se trouve ici, parce que la France a quand même, ici à Paris, la France a quand même, une place importante. Cette langue française dont on parle, elle trouve son creuset, son berceau ici. Mais en même temps, cette francophonie, c'est aujourd'hui 84 États et gouvernements, 5 continents, une langue que nous avons en partage et qui, au fait, prend vie un peu partout et qui nous permet d'engager des relation très très forte et nécessaire et de penser ensemble des stratégies face à des défis considérables dans le monde et de témoigner aussi de l'état du monde. Nous pouvons, quand je vais au Conseil de sécurité par exemple, il m'est possible de témoigner de ces questions sécuritaires dans le monde, mais de la perspective de tous ces pays de l'espace francophone. Donc je pense que la France est là, c'est la France avec 83 autres, quoi. Mais avec quand même un rôle important au niveau de la coopération. C'est le premier pays contributeur de l'organisation, vient ensuite le Canada. Mais voilà, j'aimerais que les Français se sentent davantage aussi francophones, c'est-à-dire faisant partie pleinement de cet espace de la francophonie, de cette organisation, et sachant aussi que la francophonie est aidante également pour la France, y compris face à des défis que la France vit sur son propre territoire.
Et considérant leur langue comme un trésor, si je vous entends bien, Michael Jean. David nous appelle de l'Orne. Bonjour David.
Oui, bonjour à tous.
Nous vous écoutons.
Justement, à propos du fameux trésor de la langue française, je voulais savoir si votre invité, comme moi, sursaute à chaque fois qu'elle entend des fautes de français énormes à la radio, sur votre antenne ou ailleurs.
Bon, écoutez, je pense qu'une langue, un exercice quotidien. Il faut l'aimer, cette langue, il faut aimer sa grammaire, il faut aimer sa syntaxe, et elle s'enrichit aussi d'expressions qui nous viennent de part et d'autre. Effectivement, je pense qu'une langue doit être beaucoup plus qu'une bannière. Il faut aussi en faire une valeur et la considérer comme une valeur, comme un trésor. C'est vraiment s'assurer de toujours la respecter aussi dans ses règles. Ce qui me frappe beaucoup, c'est de voir combien, malheureusement, on remplace la langue française ici en France et beaucoup dans les médias par l'anglais. Que vous disiez les news, par exemple, des side events. Pour moi, c'est étonnant parce que je me dis, bon,
bah, y a une chaîne
nous avons
l'information continue qui vient de mettre news dans son titre.
Non, mais ça me frappe. C'est dans tout. C'est dans tout. Et je me dis, mais je reprends ce mot. Pourquoi ce désamour? Qu'est-ce que cela cache? Au fait, c'est presque nier une dimension de soi et de notre identité comme francophone, sans départir, quoi. Pour moi, c'est vraiment une énigme. Je ne comprends pas.
Et on peut dire que ça vous surprend d'autant plus que vous venez d'un pays, le Canada en l'occurrence, où la bataille linguistique existe, oui. Et où les francophones, ceux du Québec, sont très jaloux, mettent un point d'honneur à utiliser des mots français.
Mais je vois aussi la tendance s'engager au Québec, elle est présente.
Oui, hein. Aussi.
Beaucoup d'anglicisme, beaucoup de mots anglais. Mais une chose, par exemple, qui m'a beaucoup frappée, quand je suis arrivée ici à Paris, secrétaire général de la francophonie, donc travaillant d'ici, c'était de voir, par exemple, un syndicat français voulant rejoindre le 1er mai les jeunes professionnels et parlant de Working Day Festival. Alors là, là je me suis dit, mais c'est insensé quand même. Premièrement, en anglais, on dirait jamais Working Day, on dirait Labor Day. Deuxièmement, quel message on envoie à ces jeunes professionnels? On est en train de leur dire qu'au fait, leur langue ne produit pas d'idées, ne produit pas de sens, ne produit pas d'idéal, et que dans le fond, quand on a à se rassembler, on va le faire en anglais, sur un appel qui est lancé en anglais, Working Day Festival. Alors là, et ça, c'est au quotidien que je le constate. Hein, je me dis, mais à quoi? Voilà. Alors, peut-être que vous avez des réponses pour moi. Ça correspond à quoi? Qu'est-ce que cela cache?
Est-ce que vous pensez qu'il faut simplement mener une bataille politique ou d'influence comme vous le faites, ou est-ce que les gouvernements de pays francophones doivent aussi édicter des règles et essayer de contraindre
Vous savez, par exemple,
comme l'Académie française pourrait le faire ou pourrait vouloir le faire.
Prenons l'usage de la langue française dans les instances internationales, d'accord? Les Africains francophones sont stupéfaits de voir, par exemple, combien de Français allaient au micro et faire leur intervention en anglais. Moi, je parle anglais.
Normalement, ils n'ont pas le droit, hein, en plus.
Voilà. Rien ne les y oblige. Très juste. Ils le font au Parlement, à l'Union européenne, ils le font aux Nations unies. Et au fait, ce que l'on constate, c'est une perte d'impact, mais réelle. Moi, je parle couramment anglais, mais quand je prends la parole en français volontairement, il y a tout le corps qui parle. Il y a la volonté de convaincre dans cette langue et en m'investissant totalement. Et je vous assure, ceux qui ne parlent pas français prennent tout de suite les écouteurs et ont envie d'entendre parce qu'ils sentent l'énergie. Et je vois des Français venir vers moi après en me disant « Mais c'est formidable quand même l'impact que vous venez d'avoir. Moi, je me demande pourquoi je l'ai fait en anglais, au fait. » Et moi, de répondre, mais je me le demande aussi, parce que rien ne vous y oblige. Vous avez raté une occasion extraordinaire d'arriver là et de créer un vrai impact avec cette espèce d'éloquence dans une langue que vous maîtrisez d'ailleurs beaucoup mieux que l'anglais. Donc voilà, ne sous-estimons pas cette capacité d'influence que nous donne cette langue. Et nous, vous savez, le combat que nous menons, c'est pas strictement pour le français, c'est pour le multilinguisme. Parce que qu'apporte le multilinguisme? D'une part, quand on s'en prive, c'est le multilinguisme, c'est davantage de perspective. Et s'en priver, c'est créer un déficit de perspective, d'énergie, de participation. Et cela vient affaiblir, au fait, la démocratie internationale. Donc, parler français dans les enceintes internationales, c'est une façon aussi de dire que nous amenons des nuances, nous amenons une façon de voir, de vivre, et nous défendons des idées et un idéal aussi dans cette langue.
Michaël Jean, on marque une pause avant d'accueillir Augustin Trapenard et de retrouver François Morel.